Pascal, ça, ça vient de où, hein? Quand je veux juste expliquer pourquoi on fait ça un matin, c'est sur les expressions québécoises.
Les mots, ouais, les mots. Là, on y va avec les mots aujourd'hui.
Est-ce que... Ouais, on va déborder un peu, là.
Ouais.
Mais ça vient des expressions, là. Est-ce que c'est quand il vantait, puis j'ai expliqué pourquoi on disait il vante à écorner les bœufs?
Exactement.
Ça vient de là. Alors, il y a un matin, on se lève. Il vante, et vous connaissez l'expression, donc, mm-hmm. écorner les bœufs. Et là, je l'avais déjà raconté dans le passé, mais je disais à mes collègues, est-ce que vous savez pourquoi on emploie cette expression-là? Est-ce que ça veut dire que le vent est tellement fort que les cornes des bœufs partent au vent? Hein, on pourrait penser ça. Ça n'a rien à voir. Les fermiers, autrefois, devaient couper les cornes des bœufs, parce que ça peut changer, ça peut être dangereux
pour les autres animaux du bétail.
Aussi, oui. Alors, il faut qu'ils enlèvent ça. Mais quand ils coupent ça, ça saigne. Et ça peut s'infecter lorsqu'il y a des mouches. Je sais que c'est dégueu, là. Je vois ta face, mais c'est ça. Donc, les fermiers choisissaient les journées où ils ventent fort pour couper les cornes des bœufs, parce que le vent éloigne les moustiques et ça permettait à la blessure de mieux cicatriser. D'où l'expression « ils ventent à écorner les bœufs ». Et suite à ça, Pascal a dit, il y en a plein d'autres. Je sais que tu as déjà fait un dossier là-dessus cet été qu'on ne répétera pas, sur la signification des expressions québécoises. Mais là, matin, on va plus loin que ça un peu.
Oui, on prend des mots, des noms propres qui sont devenus des mots qu'on utilise à tous les jours, mais qu'on ne sait pas du tout d'où ça vient. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais François Lavallée, ça l'intéresse beaucoup. Il est vice-président à la formation et à la qualité au cabinet de traduction Edgar. Puis hier, on s'est parlé au téléphone. Hey. Il m'en a sorti cinq. Cinq qu'on utilise assez souvent.
C'est des noms.
Ouais.
Dont on ne sait pas d'où ça vient. C'est pas vraiment une expression,
c'est
mais
des
un
mots,
nom,
juste,
mais
ouais.
C'est des mots.
C'est des mots, puis ça découle de des noms propres.
Hein?
On en a cinq ce matin, et on commence en force avec un mot qu'on utilise à chaque jour, là, poubelle.
Que ce nom-là, c'est vraiment quelqu'un en France qui s'appelait Eugène Poubelle. Il était préfet de la Seine à la fin du 19e siècle. C'était une époque où les gens avaient encore l'habitude depuis longtemps de jeter leurs ordures dans la rue, tout simplement. Il n'y avait pas de poubelle. Et puis, c'était des chiffonniers qui passaient, puis qui ramassaient ça. Mais évidemment, c'était toujours très malpropre dans les rues aussi. Puis lui a décidé de passer vraiment un règlement qui obligeait les gens à se procurer un contenant, là, qu'on appelle une poubelle aujourd'hui. Là. Tout était réglementé, la grosseur, il fallait qu'il y ait un couvercle dessus, puis tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une poubelle. Et ça, quand même, bizarrement, ça a fait pas scandale, mais disons qu'il y a eu beaucoup de résistance, parce que justement, il y avait des chiffonniers qui passaient dans la rue, puis qui ramassaient les ordures, puis qui faisaient de l'argent avec ça, eux, ils revendaient ça. Et donc, et puis les gens n'étaient pas trop habitués de mettre des choses dans une poubelle, ils trouvaient ça beaucoup plus pratique d'acheter ça dans la rue. Ça fait que les gens se sont mis à se moquer de ce contenant-là, qu'ils voulaient rendre obligatoire. C'est pour ça qu'il y a un journal qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Le Figaro, qui appelait ça la boîte poubelle. Et là, les gens étaient trop contents de se moquer de ce préfet-là en appelant la fameuse boîte à ordures poubelle. Donc, c'est comme ça que le mot y est resté, finalement. C'est fait qu'en français, on a vraiment ce mot-là qui nous paraît très normal, mais quand on y pense en anglais, par exemple, il n'y a pas de mot pour poubelle, c'est garbage can ou trash can. Ça veut juste dire contenant à ordures, qui n'est pas très joli. Donc, on a vraiment un très beau mot. En plus, il y a le mot belle dans poubelle. C'est assez comique.
C'est poétique.
Donc, il est passé à la postérité avec ses poubelles. Et je pense pas qu'il s'attendait à ça quand il a inventé l'engin en question.
Et là, la question, une fois qu'on apprend ça, moi, je savais pas ça.
Non,
poubelle,
non.
C'était une famille, c'est un nom propre. Il y a eu des gens poubelles qui ont donné leur nom. Il a très bien expliqué comment à l'engin comme tel, à l'objet. Est-ce qu'il y a encore des poubelles? Dans le sens, est-ce qu'il y a encore des gens qui s'appellent poubelles? Et la réponse, c'est oui. Parce qu'il y a eu des descendants. Oui. Ici même, au Québec, il y a une poubelle.
C'est plate.
Ben non, mais je sais pas comment le dire. Même, hein? Un ou une poubelle.
Parce qu'on dit un bouchard, un tremblé, une poubelle.
Il y a une crête, il y a des Vézina et il y a des poubelles au Québec.
Allez voir
dans l'annuaire, vous allez trouver quelques poubelles.
Ça peut être facile à l'école pour ces gens-là?
Non, vraiment pas.
Ah, ouais.
Alors, qui ont occupé des fonctions assez importantes. Alors, 25-226.
On passe
si jamais, hein?
Qui ont occupé des fonctions importantes?
Ben, il y a au moins quelqu'un qui, je veux pas trop, qui... poubelle.
Deuxième mot, on passe à silhouette.
Alors ça, il y a peu de gens qui savent que le mot silhouette aussi, c'est le nom d'une personne, un monsieur qui s'appelait Étienne de Silhouette. On est plus loin dans le temps, c'est à l'époque de Louis XV en France. Lui, il était contrôleur général des finances. Et ce type-là, il avait la réputation de, disons, tourner les coins ronds, de pas être très, très minutieux. Ce qui fait qu'on s'est mis à utiliser l'expression à la silhouette pour parler de choses qui étaient incomplètes. Par exemple, des pantalons pas de poche, on disait c'est des pantalons à la silhouette. Et à la même époque, il y a eu une mode qui est arrivée qui consistait à dessiner des silhouettes. On n'appelait pas encore ça comme ça, mais une personne se met, mettons, le visage près d'un mur, on éclaire le mur avec une lumière, et puis là, on dessine la silhouette de la personne sur le mur, puis c'était une chose qui était assez fréquente. Et puis, vu que le mot silhouette était, disons, courant pour désigner quelque chose d'incomplet, on a décidé d'appeler ça des silhouettes aussi. Donc, ces fameux dessins qui représentent une personne, mettons, de profil, mais juste la silhouette. Donc, le mot silhouette est devenu courant dans ce sens-là.
Est-ce qu'il en reste encore, ça? Je sais pas. Des poubelles, je vous réponds que oui. On a vérifié. Des silhouettes, je sais pas, mais ça vient aussi d'un nom. On exact. Enchaîne avec...
Léotard.
Ah, ça, c'est costume pour les gymnastes.
Exactement. Ouais.
Donc, la combinaison qu'on enfile pour faire de la gymnastique, on appelle ça un léotard. Et ça aussi, c'est le nom d'une personne. Un monsieur qui s'appelait Jules Léotard. Ce type-là, c'est au milieu du 19e siècle. C'était, en fait, c'est l'inventeur du trapèze volant. C'est un trapéziste. C'est lui le premier qui s'est mis à faire des choses comme sauter d'un trapèze à l'autre. Et puis, donc, il était très connu dans le domaine du cirque. Et c'est lui qui a dit, ça serait bien que j'ai un costume qui me donne beaucoup de liberté de mouvement. Donc, un costume qui colle à la peau, finalement, comme si c'était une seconde peau. Donc, c'est lui qui a passé la commande de se faire faire un costume comme ça, qu'on appelle maintenant un léotard. Puis, en plus, les trapézistes, souvent, ils ont des très beaux corps musclés, coupés au couteau. Donc, apparemment, les dames détestaient pas voir Monsieur Léotard dans son Léotard.
Est-ce que, donc, il est en train de nous donner raison sur une chose? Tu sais, on s'est assez fait corriger là, par nos mères ou par les professeurs quand on dit « mets ça dans le frigidaire ». Mais on a le droit.
Ouais,
c'est un nom propre qui est devenu un nom commun. Donc, dans la langue française, de poubelle à silhouette en passant par Léotard, ce sont des noms propres qui ont fini par s'appliquer à des objets. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui met quoi dans le réfrigérateur. Avouez-le qu'on dit frigidaire.
Ouais.
Tout le monde dit frigidaire. Dans le frigo. Frigo est devenu un mot. Puis peut-être que dans 25 ans, quelqu'un à la radio expliquera, là, à partir de matin, on le dessine, c'est un frigidaire. OK? Puis dans 25 ans, un prof dira, ben, c'est parce qu'il y avait une marque à l'époque qui s'appelait frigidaire, parce qu'elle n'existe plus, la marque, qui a donné son nom à ce qu'on appelle un, c'est dur à dire en plus, un réfri ou un réfrigérateur.
Réfrigérateur.
Ouais, mais avoue que des fois, on peut se tromper. On dit souvent réfrigérateur.
Ouais.
Il y avait le même phénomène avec les motoneiges. Dans les années 60-70, c'était toutes des skidous.
C'est vrai.
C'est encore
des skidous.
Ah ouais.
Il y a personne qui s'en va faire un tour de motoneige.
Ben, en fait,
un tour
skidou,
de skidou.
Tu fais du skidou l'été, mais l'hiver, tu vas souvent faire de la motoneige, par exemple. J'ai remarqué ça. C'est rare que tu vas faire un tour de skidou l'hiver.
Bon, on en a un autre.
Oui.
Deux petits rapidement. Celsius.
Celsius et Fahrenheit. Ça aussi, c'est deux hommes.
Les fameux degrés Celsius, là, la température refroidit, puis on est habitué, nous, maintenant, de donner la température en Celsius. Dans l'ancien temps, on les donnait en Fahrenheit. Puis encore, il y a des gens qui utilisent Fahrenheit et Celsius. Dans les deux cas, c'est des noms de personnes. Donc, c'est monsieur Daniel Gabriel Fahrenheit, qui était un Allemand au 18e siècle. Et à la même époque, Anders Celsius, lui, c'était un Suédois. Et les deux, à peu près à la même époque, ont imaginé des échelles de température. Fahrenheit, lui, ce qu'il a dit, il a pris la température la plus basse qu'il connaissait, qu'il avait mesurée dans son petit village, qui disait, j'imagine, autour de zéro. Et la température, une température haute, qui était la température du sang du cheval, je ne sais pas pourquoi. Et il a pris ces deux températures-là, puis il a dit, je vais diviser ça par 12, puis ensuite par 8. Ça va donner des degrés qui sont les degrés Fahrenheit. M. Celsius, il a trouvé que c'est un petit peu trop compliqué. Il a dit, on va prendre plutôt simplement la température de l'eau qui bout, puis la température de l'eau qui gèle, puis on va diviser ça par 100. Donc ça a donné les degrés Celsius. Donc les deux ont vraiment cohabité longtemps, mais finalement, dans les deux cas, c'est vraiment l'inventeur qui a donné son nom à l'échelle de température.
Je sais pas pour vous, mais moi j'adore ça. Ce genre d'information-là, je sais qu'il y en a qui vont probablement, au moment où on se parle, dire « ça sert à quoi savoir ça? » C'est le genre d'exemple d'information totalement inutile à savoir.
Ouais.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'aime ça.
Ben c'est fun.
Sur
ça,
les noms, les expressions, savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Moi, je me promène sur la route, puis je vois les noms des villages et je me pose des questions. Tu sais, je suis monté à Charlevoix récemment. Quand j'étais à Saint-Tite, là, je me rappelle toujours que quelqu'un s'est appelé Tite.
Oui, c'est vrai.
S'il y a un Saint-Titre, il y a eu un titre.
Mais oui, il y a
mais
eu
quel
un
nom poche.
Oui.
Saint-Prime aussi. Saint-Prime. Quelqu'un qui s'appelle Prime. Lui, ça a l'air, tu riais pas trop avec, là. Il était Prime. Il s'appelait Prime. Tu sais, Prime avec titre, on s'entend que ça, je sais pas comment
c'est
ça
pas
marche.
C'est le meilleur
là.
Nom, là.
Non. Ouais. Quand tu passes à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, tu te demandes. On dit tous Sainte-Anne-de-Beaupré, ouais. Hein? Est-ce que vous en connaissez beaucoup des Anne? Non, mais on dit Anne. Pourquoi c'est personne vrai. Dit Sainte-Anne-de-Beaupré?
C'est vrai.
On dit tous Sainte-Anne-de-Beaupré. Sainte-Anne. Parce qu'avant, les Anne étaient des Anne.
Ah oui? Mmh.
Oh,
ah,
oui.
Je savais pas.
Quand moi, j'ai déjà entendu mes grands-parents, tout ça. Là, pis, oh, oui.
C'était
autrefois, c'était Anne. Oh, oui.
Ah, ouais.
C'est pour ça qu'on dit Sainte-Anne-de-Beaupré.
Mmh. Anne Blanchette.
Quand j'étais petit, on avait une gardienne chez nous, puis c'était Marie-Anne. C'est pas Marianne, c'est Marianne.
Marianne?
Oui.
Mais après ça, le nom a évolué. Alors, il y a des choses qui changent. On en a un dernier, Pascal?
Oui, puis c'est pas mal mon préféré avec Poubelle. Puis Poubelle, beaucoup de gens nous écrivent qu'il y en a beaucoup à Québec, même des docteurs et tout ça. Là.
Il y a même une radio, Poubelle, ça a l'air. La FM 93. Ben non! Non!
C'est une blague.
C'est une blague. Certains nous qualifient de même, regarde, c'est tel que tel.
Vas-y. Alors, je vous offre daltonisme.
On a daltonien, donc il y a sûrement des auditeurs qui sont daltoniens. Donc, le daltonien, comme on sait, c'est quelqu'un qui voit pas les mêmes couleurs que les autres ou qui ne voit pas certaines couleurs. C'est un phénomène qui était pas étudié scientifiquement jusqu'à la fin du milieu du 18e siècle. Il a nommé John Dalton, comme les frères Dalton de Lucky Luke, mais là, lui, c'était pas un malfaiteur. Lui était physicien, c'est un scientifique, puis il était lui-même daltonien, puis son frère était aussi. Puis il se demandait pourquoi il voyait pas les mêmes couleurs que tout le monde. Alors, il a essayé de faire des études, puis à faire des hypothèses là-dessus, et il a même mis dans son testament qu'il voulait que quand il était mort, qu'on lui prenne les yeux, puis qu'on dissèque ses yeux pour vérifier si son hypothèse était bonne. Malheureusement, l'hypothèse n'était pas bonne, mais il a quand même fait avancer l'étude du daltonisme, puis on a encore, d'ailleurs, ses yeux sont encore conservés aujourd'hui dans un musée à Manchester. On a revérifié ces gens en 1995 pour vérifier une autre théorie sur le daltonisme. Mais toujours est-il que c'est lui qui s'est vraiment penché sur la question du daltonisme. Et c'est ça, il appelait pas ça comme ça à ce moment-là. En anglais, on appelait ça color blindness, simplement le fait d'être aveugle aux couleurs. Mais vu que ça s'appelait Dalton, rapidement, on a fini par nommer cette affection-là daltonisme en l'honneur de la personne qui s'est mise à l'étudier.
Fort intéressant. Merci, Pascal.
Plaisir.
Même si ces informations-là changent rien dans votre vie, j'aime ça, moi. Je collectionne presque ces affaires-là. Le bonhomme 7 heures, ça vient d'où?
Ouais. J'aime pas ça. Ça vient d'une expression anglaise.
Ouais.
Ah oui?
Tu sais pas?
Non.
Ah, j'aime ça. Le bonhomme 7 heures, c'était pour faire peur aux enfants. À l'époque, là, quand les enfants étaient malades, il n'y avait pas des médecins partout. Alors, les petites familles isolées dans les villages, etc., ils faisaient venir le ramancheur. OK? Et le ramancheur, il faisait peur aux enfants parce qu'il faisait mal. Alors, le ramancheur, comment ça s'appelle en anglais? En français, c'est un ramancheur. En anglais, c'est un bone settler. Bone settler. Attention, le bone settler s'en vient, le bone settler. Hey, on va appeler le bone settler, ah, ouais. Bonhomme setter. Ça vient de là.
Parce que cotter, même...
Pourquoi on dit cotter au Lac-Saint-Jean puis au Saguenay, puis ailleurs un peu au Québec? Les espèces de bordures en marge des chemins, des routes, des pavés.
Les chaînes de trottoir.
Les chaînes de trottoir, on appelle ça le cotter. T'as déjà entendu ça?
Mm-hmm.
Pourquoi? Ça vient d'où?
Aucune idée.
Les architectes qui ont dessiné au Saguenay-Lac-Saint-Jean les premières rues dans les premiers quartiers, c'était souvent des gens embauchés par Alcan ou des anglophones. Alors, ils dessinaient les rues, puis là, ils mettaient l'asphalte, le chemin, puis sur le bord, là, où commençait le terrain, ouais. Tout, qu'est-ce qu'ils écrivaient? Ils écrivaient Cut Ear. C-O-T-H-O-R-E. Cut Ear. Alors, les travailleurs, les Québécois qui voyaient ça, ils disaient, bon, ben, on continue jusqu'au Cut Ear. Arrête ça au cotter, cotter, cotter.
C'est
de
bon.
Là que ça vient.
Et pour ton petit bonhomme 7 heures, là, je comprends que c'est une déformation de l'expression anglophone, là, anglaise. Là.
Bone settler.
Donc, il y en a bien des parents, juste de même, là, qui ont interprété ça à leur manière, soit couché avant 7 heures, sinon ils arrivent à 7 heures.
Oui, je le sais.
Il y a Anne qui nous écrit encore aujourd'hui, certaines personnes âgées m'appellent Anne et j'ai 47 ans.
C'est pas beau, hein, Anne. Non, c'est pas beau. Mais ça vient de là. Ça vient qu'autrefois, c'est comme ça qu'on le prononçait.